Ecclésiopode.
Eh bien, ça y est, on est reparti, on a loué le Seigneur. Est-ce que c'était grave? Est-ce que Dieu va nous frapper maintenant quand, est-ce que vous allez avoir un accident de la route en rentrant dans la maison? Est-ce que Dieu serait ce Dieu-là qu'on nous a décrit?
À l'écoute, je vous dis bonjour et merci de m'accueillir chez vous avec cette nouvelle édition d'Ecclésiopode. Ecclésiopode, c'est bien cette rubrique de notre grille de programme que nous mettons à la disposition des pasteurs et des prédicateurs évangéliques pour la propagation de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Dans quelques instants, nous allons accueillir le pasteur Freddy de Coster de l'église baptiste de Honfleur en Normandie, dans un message qu'il a prêché dans la 8e convention Pentecôte 2007. Mais comme il est de notre habitude, avant de l'accueillir, nous allons vous faire écouter un titre que nous avons choisi pour votre plus grand plaisir. Et c'est bien le pasteur, l'artiste Nicolas Ternisien qui va nous l'apporter. Nous te donnons nos cœurs, chant extrait de son album intitulé « Tes marques et mes mots ». Cette émission est une courtoisie de la société Sephora Musique de la Vie et le pasteur Alexandre Baron, collègue du pasteur Freddy de Coster. Écoutons Nicolas Ternisien.
Le Seigneur enseigne-nous
changé nos vies. C'était l'artiste Nicolas Ternisien. Chant extrait de son album « Tes manques et mes maux ». C'est maintenant le moment d'accueillir le pasteur Freddy de Coster, espérant que vous allez laisser le Saint-Esprit vous parler par son serviteur. Nous lui disons bonjour et bienvenue à l'antenne de la radio Ebenezer International. À tous et à toutes, nous souhaitons une agréable écoute.
Comme on est dans 3 jours de gloire où Dieu veut agir puissamment, je voudrais quand même qu'on passe du temps ce matin. On va, après avoir célébré comme ça, on a besoin de se reposer aussi, mais pas pour dormir. Mais j'aimerais qu'on puisse étudier un peu la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez votre Bible? Alléluia. Je fais comme ça pour voir jusqu'en haut. On est nombreux, n'est-ce pas, hein? Alléluia. Vous imaginez quand on ira au Stade de France? Mais il faut aller pas à pas, hein? Il faut apprendre à gérer. Alors c'est pour ça, l'année prochaine, vous voudriez qu'on continue? Il y a 2 conditions. 3 conditions. La première, c'est que Dieu nous le dise. Mais ça, à mon avis, on n'est pas loin de l'accomplir, cette condition, non? La deuxième, c'est que le Seigneur continue à pourvoir. Et ça aussi, il le fait. Et là, on a besoin de tous, n'est-ce pas? Parce que pour changer notre pays, ce n'est pas un seul homme qui puisse le faire. Ni une seule église. Cette année, on a pu passer dans cette nouvelle dimension parce que 2 églises sont devenues partenaires volontairement. Parce que moi, je ne demande jamais rien. C'est le pasteur Eliseo Soto et le pasteur Jacques Flau, j'aimerais qu'ils se lèvent, qui ont donné aussi beaucoup de personnel et tous les bénévoles, non seulement de notre église, mais de nos 3 églises, qui font que tout cela est possible. On vous remercie. Et si l'année prochaine, vous voulez passer d'auditeur à acteur, eh bien, vous pouvez vous inscrire auprès de notre direction. Et comme ça, vous pourrez avoir, parce qu'on a notre directeur du personnel, le directeur des ressources humaines, qui organise pour que chacun travaille 5 heures par jour et que le reste du temps, il puisse profiter de la conférence. C'est bien ça, hein? Et il y a plus de 350 personnes qui vous servent. Ils sont en train de préparer votre nourriture. Alléluia. Et donc, si l'année prochaine, vous voulez nous aider, si Dieu nous dit de continuer, bien vous pouvez vous inscrire. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est venir. Parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent, puis après, ils ne viennent pas. Alors, c'est embêtant. Et comme ça, on pourra continuer et avancer pas à pas pour la gloire du Seigneur. Avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais vous dire aussi que mon nouveau livre vient de sortir, qui s'appelle « À votre avis ». Un livre sur lequel je vous demande votre avis. Je vous ai même donné une adresse mail où vous pouvez me donner votre avis. Sur des questions très délicates, mais qu'on a besoin de régler. Il faut qu'on ose, une fois pour toutes, en parler si on veut enfin que ce réveil vienne sur notre pays. Parce qu'il est là, c'est même plus du conditionnel. C'est même pas du futur. C'est une réalité pour celui qui se met en œuvre. Et nous avons 3 blocages principaux dans notre mentalité française, comme dans nos églises, qui sont les blocages vis-à-vis de l'autorité, des dérives et de la liberté. Qu'est-ce que l'autorité? Qu'est-ce que les dérives? Est-ce que ce qu'on a vu ce matin et vécu, est-ce que c'est une dérive ou est-ce que c'est la normalité dans le règne de Dieu? C'est une question à se poser. Pourtant, beaucoup pourraient penser que c'est une dérive. Il y a des chrétiens qui jeûnent et qui prient contre cet événement en ce moment en France. Parce qu'ils considèrent que c'est une dérive. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et qu'est-ce que la liberté? Vous êtes déjà posé la question? Tout le monde dit, moi, je veux être libre. Qui ne veut pas être libre? Mais est-ce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce que la liberté? Alors je sais que vous êtes un peuple qui aimait beaucoup réfléchir, qui aimait argumenter, et c'est pour ça qu'on est fiers d'être chrétien. Et c'est pourquoi je l'ai fait aussi en répondant à un journaliste, le journaliste Paul Holot, qui voulait justement interroger sur les sujets qui sont un peu désagréables de temps en temps. Mais pour faire un bon bilan, on en a besoin de temps en temps. Amen. Vous trouverez donc ce livre, si vous voulez, sur le stand Mana à droite en sortant. Et j'espère qu'il vous bénira et je vous demanderai s'il vous plaît de me donner votre avis parce que c'est justement ce livre qui dit « À votre avis ». Amen. Messieurs les pasteurs, À votre avis? J'ai besoin de savoir votre avis. Le Seigneur a besoin de savoir votre avis. Alors, vous pourrez le consulter si vous voulez. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez le temps. Parce qu'on va parcourir un peu la parole de Dieu ensemble. Vous savez, moi j'aime beaucoup, je suis un peu évangéliste sur les bords, un peu beaucoup même. Alors j'aime beaucoup les messages, comme ça, vous voyez. Et hein, vous savez hein, déjà. Mais j'aime aussi puiser dans la parole de Dieu. Car toute notre légitimité vient de la présence de Dieu et de la parole de Dieu. La présence de Dieu, les miracles, ne sont que les conséquences d'une foi affermie. On ne peut pas vivre les miracles pendant un temps, Dieu va le permettre, ou vouloir exercer les dons spirituels, la puissance de Dieu, si nous ne sommes pas d'abord profondément bibliques. Si tu veux imposer les mains à quelqu'un et puis que le samedi soir, le vendredi soir et tout ça, tu vas faire des galipettes. Au bout d'un temps, ce sera une drôle d'onction que tu vas transmettre, hein. Moi, j'ai pas envie de me faire imposer les mains par quelqu'un qui est adultère. Parce qu'après, mes pensées vont être complètement perverties. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut ce fondement dans la Bible, la parole de Dieu. Je veux dire, ouais, c'est parce qu'il est baptiste, il parle toujours de la Bible. Eh ben oui. La parole de Dieu est le fondement de tout. Il est même le fondement de l'Église. Et il est même le fondement des cultes et de la puissance. Et j'aimerais aujourd'hui parcourir avec vous la parole de Dieu et vous poser une question sur ce qu'on vit dans ces conférences, dans les campagnes qu'on peut faire, dans les réunions de puissance que nous organisons. Est-ce que c'est biblique? Et j'aimerais aborder un thème avec vous dont je suspecte qu'il ne soit pas souvent abordé dans les églises. C'est le sujet du culte. Dites avec moi le culte. Encore une fois, le culte. Qu'est-ce que c'est un culte? Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes posé déjà la question depuis que vous êtes chrétien, qu'est-ce que c'est rendre un culte à Dieu? Ou est-ce que vous vous dites, comme beaucoup d'entre nous, ah ben dimanche matin, faut se lever, mince, je dois aller au culte. Comme on dirait, je dois aller à l'église. Alors qu'on a tort, la terminologie aller à l'église n'est pas juste. On devrait dire, je devrais aller au Zénith pour être l'église, par exemple. Je devrais être allé dans notre bâtiment pour vivre l'église. Et quand on dit « je vais à l'église », c'est théologiquement infondé. De la même manière que quand on dit « je vais au culte », c'est théologiquement infondé. Et on doit retrouver la vérité de ce qu'est le culte. Et qu'est-ce qu'un culte? Qu'est-ce que rendre un culte à Dieu? Pourquoi avons-nous été sauvés? N'est-ce pas pour rendre culte à Dieu? Pour donner, selon Romains, et donner au Seigneur, lui rendre un culte raisonnable, véritable, vrai, bon? Et si nous devons rendre un culte à Dieu, comment devons-nous le rendre? Ou est-ce que nous faisons l'église d'une manière liturgique, habituelle? Même si la liturgie a du bon, il y a un moment donné, lorsqu'on est devenu chrétien et qu'on est passé de l'étape de la découverte, le Seigneur nous invite à aller plus loin avec lui. Et pourtant, nombre de personnes s'imaginent qu'une fois converties, ben c'est bon, elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent. Et puis elles peuvent se laisser glisser dans la vie chrétienne comme Ulysse, qui disait que c'est cool, on peut être tranquille comme le Nil, on peut suivre notre cours sans quitter notre lit. Mais la vie chrétienne n'est pas cela. Et vous savez, j'aime tellement la France. J'aime tellement les Français. Même si parfois, franchement, ils sont un peu gonflants. Nous sommes gonflants. Vrai ou faux? Vous me pardonnez si je dis ça? Et j'aime l'Église. Oh, comme j'aime l'Église. Je suis si triste qu'on la maltraite si souvent et que notre caractère charnel nous pousse à ne pas la considérer à sa juste valeur. Et je suis affligé de l'état spirituel de nos Églises. C'est mon propre constat d'échec puisque je suis pasteur. Et je me tourne vers mes collègues. C'est une véritable affliction. Et peut-être cela vient du fait que on ne se pose pas souvent la question en quoi nous croyons? En qui nous croyons? Est-ce que nous croyons Dieu? Ou est-ce que nous croyons en Dieu? Alors vous allez voir qu'après ce message, vous aurez plus de questions que de réponses. Hein, Mais moi, j'aime bien poser des questions. J'aime bien que quand je parle avec des gens, ils aient plus de questions après que de réponses. Parce que c'est pas à moi de vous donner les réponses, c'est à vous de les trouver. C'est ça la liberté. Amen. Alors mes amis, de la réponse à cette question, qu'est-ce que c'est croire Dieu ou croire en Dieu ? Eh bien, dépend la manière dont on va vivre notre foi et dont on entend la vivre. Car il y a des gens qui veulent la vivre toujours de la même manière. Et moi, l'autre fois, j'ai parlé avec un frère d'une église plus traditionnelle que j'aime beaucoup, un ami. Et puis je lui parlais de la puissance de Dieu, de l'importance de libérer la gloire de Dieu, de chercher les dons spirituels, de chercher la présence de Dieu, de passer du temps. Il ne comprenait pas pourquoi parfois je passais mes nuits à chercher mon Dieu. Et il disait, moi je n'ai pas besoin de cela. Et puis je lui parlais de louer le Seigneur comme on l'a fait ce matin. Mais il me disait, mais je n'ai pas besoin de cela. Et à chaque fois il disait, mais moi je n'ai pas besoin de cela. J'étais affligé d'entendre cela. Comment un pasteur peut-il, je n'ai pas besoin de cela? Mais il ne s'agit pas de ton besoin, il s'agit du besoin des perdus. Il s'agit du besoin de ceux qui souffrent. Tu es sauvé pour servir, disait l'armée du salut. Alors a-t-on compris ce qu'est l'essence de la foi? Si la foi est une expérimentation et non une expérience unique à un moment donné, ne sommes-nous pas invités à l'exercer chaque jour? Est-ce que nous pouvons progresser dans la foi? Est-ce que Dieu attend cela de cette progression de ses enfants? Et quel est le moyen de cette progression? Vous savez, on peut tourner la question dans tous les sens. Mais il revient toujours. Et il en revient toujours, le Seigneur, et la réalité de la vie à l'essentiel. Dites avec moi l'essentiel. Je dirais l'essence du ciel. Le sens du ciel. Le sens unique. Et je pourrais continuer longtemps. Mais moi, je crois que si c'est un sens unique... Un sens véritable, c'est celui par lequel on doit passer. La relation. Dites avec moi la relation. La relation avec Dieu. Et cette relation passe par l'ouverture personnelle au Créateur dans la relation avec le Seigneur. Et également tout de suite après dans la relation avec les hommes qu'il a créés. Je ne peux pas dire que je suis en relation avec Dieu si je ne suis pas en relation avec mon frère, avec ma sœur. Et ça c'est le mystère caché d'Éphésiens. Depuis toute éternité, ça s'appelle l'Église. Et il y en a beaucoup qui pensent que je suis comme Jean-Baptiste et que je prêche dans le désert parce que j'aime prêcher de l'Église. Mais c'est l'Église, l'Église et l'Église et encore l'Église. Et il faudra bien que vous vous réconciliez avec l'Église à moins que vous ne vouliez progresser dans la vie chrétienne. Parce que c'est le plan de Dieu. Il est imparfait à nos yeux, mais il est parfait selon lui. De la même manière que la famille, le couple est imparfait pour nous parce qu'on aime bien aller faire des galipettes à droite et à gauche, mais quand on se convertit on dit non, parce que Dieu a créé le foyer, il a créé la fidélité pour que nos enfants soient établis et qu'ils soient victorieux dans la vie chrétienne. Et la famille, c'est peut-être pas facile, mais c'est le plan de Dieu. Tu peux tourner dans tous les sens, tu peux essayer de tordre les choses, mais tu reviendras toujours à un moment donné à l'essentiel, à moins que tu n'aies raté le but pour toujours. Or l'Église, c'est avant tout notre famille, c'est un lieu de croissance, un lieu d'apprentissage, de sanctification, et surtout, ça doit être le lieu. Et là, écoutez-moi bien, l'Église n'est pas seulement le lieu de la famille, de l'amitié, d'être des frères et sœurs, mais pour moi, et je crois pour la parole de Dieu, et pour le réveil, et pour le Seigneur, et pour le Saint-Esprit que nous célébrons ce dimanche, l'Église est le lieu de l'apprentissage, de la communion avec Dieu. C'est le lieu où on apprend à entrer en intimité avec Dieu. Parce qu'il n'y a rien de moins naturel que d'être en intimité avec Dieu. L'homme charnel que nous sommes n'aime pas les choses de Dieu. Ça fait suer, pour ne pas dire un autre mot, que je pense bien fort avec un grand C, d'aller prier. Vrai ou faux? On préfère être en train de zapper devant la télévision. C'est plus difficile de faire du bien que de faire du mal. C'est plus difficile de se défendre. Quelqu'un t'embête, tu lui en renvoies une bonne. Plutôt que d'apprendre à être selon Dieu. Et c'est plus difficile de vivre une communion avec Dieu que de vivre un rituel avec Dieu. Qui est facile, le rituel, il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de nouveau. C'est tout le monde, on sait ce qui se passera. On sait à quelle heure on terminera. On peut même programmer le four pour les apéros. Alors c'est plus difficile et pourtant l'Église est le lieu d'expérimentation. Dites avec moi, expérimentation, dites-le s'il vous plaît. Ainsi ne peut-on pas être chrétien sans être églisé. C'est pas français, hein? Dans mon premier livre, j'ai francisé un terme, ministré. Les gens m'ont dit, mais c'est pas français. Ben maintenant, c'est devenu français. Et bientôt, ce sera dans le petit Robert, parce qu'on va ministrer la France entière. Alléluia! Et ministrer, ça veut dire établir le bien et bénir les gens pour accomplir le royaume de Dieu sur cette terre et au travers de nos vies. Alléluia! Et bientôt, nous serons tous des chrétiens français dans notre région, mais on sera tous des églisés parce qu'on sera devenus intelligents. Alléluia! Selon l'intelligence spirituelle. Mais si on ne s'entraîne pas dans l'intimité avec Dieu, et je dis bien le mot entraîner, je parle d'expérimentation, je ne suis pas dans l'utopie de dire il faut de l'amour, il faut s'aimer, il faut louer, il faut des prophéties, il faut des guérisons, il faut que yaka faucon. Oui, presque ça, ça dépend de l'orthographe. J'en ai ras-le-bol de ces utopistes. Et on est mal barré en France parce que notre devise nationale, c'est trois utopies. Liberté, égalité, fraternité. Vous allez être choqués. Eh bien oui, peut-être. Moi, je suis pour. Mais si l'utopie devient une règle dont qu'on ne peut pas définir, il n'y a pas de pragmatisme. Et c'est pour ça que nous, on aime bien les grandes notions de valeur. Mais après, quand il faut les appliquer, les gens ils te disent il faut de l'amour. Si tu dis, ben, viens aider pour faire un sandwich pour le frère là-bas qui aura faim dans quelques minutes, il va te dire, ah ben non, moi, je n'ai pas été appelé à ça. Alors, fraternité...
Je lève les yeux et je ne vois que les montagnes m'étouffent.
L'artiste Brian Austin.
Où est mon secours? Ma force se trouve au-delà. Loin de la multitude, loin de ma solitude, je voudrais m'échapper. Je ne sais que faire, je lève les yeux vers mon Dieu.
Nous
Et la Bible nous invite à développer, à apprendre cette communion avec Dieu comme on apprend la communion avec notre épouse. Et vous savez, quand on lit les psaumes, c'est écrit, parfois ça parle cantique des niveaux. Vous avez déjà vu ça? Ça veut dire quoi? Dans l'ancien temps, les niveaux, c'était les escaliers, cantique des escaliers. Il était un peu bourré, David, quand il écrivait ça. À mon avis, il avait pris une herbe malfaisante. Hein? Ou alors, il était en train de nous dire qu'il existait peut-être dans la relation avec le Seigneur des niveaux qu'on était appelés à franchir, et qu'avant d'arriver là-haut, eh ben, il a fallu passer par en bas. Puis quand vous arrivez là-haut au zénith, vous avez déjà bien marché, c'est pas vrai? Vous dites, ah, je suis content de m'asseoir. Puis après, il y a Doc Oster qui vous dit, debout, on va louer le Seigneur. Oh. Mais le Seigneur veut nous amener vers le sublime, vers le plus grand, vers le beau, vers la beauté, vers l'élévation, vers l'intensification des relations, non seulement entre nous, mais également avec lui. Et pour y parvenir, Dieu nous donne un moyen qui est très ignoré dans notre pays de France, mais qui existe là partout où il y a des réveils. C'est des gens qui ont redécouvert ces vérités. C'est de rendre un culte à Dieu. Nous sommes nés de nouveau pour rendre un culte. Et moi, je voudrais vous demander, qu'est-ce que le culte? De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, à quoi ça sert? Et pour ce faire, bien, j'aimerais qu'on parcoure un peu l'Ancien Testament, dont on tire cette source. Et mon premier point, ce serait de vous dire que plus qu'un rite, le culte, c'est cette relation avec Dieu. Chaque église a bien sûr ses particularités, des points forts, des points faibles. Il y en a qui aiment bien danser comme nous, il y en a qui aiment moins. Mais chacune agit selon sa compréhension de la révélation biblique. Mais la compréhension de la révélation biblique ne doit pas être figée. Elle ne doit pas être bloquée. C'est parce qu'on nous a appris ça dans un séminaire biblique que maintenant c'est toujours comme ça. Dieu est un être vivant, n'est-ce pas? Il n'est pas mort. Et un être vivant, ça bouge. L'église n'est pas l'antichambre du caveau. Parfois il y fait aussi froid et aussi silencieux. L'église, c'est le lieu de la famille. Moi, j'ai pas envie d'aller au caveau avant l'heure. Vous pouvez me critiquer parce que je suis peut-être un peu... Je maltraite mes cravates. Mais que m'importe. L'église, c'est la vie. C'est la joie. Sinon, c'est pas l'église. C'est la religiosité. Et le culte n'est pas une cérémonie, c'est pas seulement une liturgie, comme c'est malheureusement le cas dans grand nombre d'églises. Nous ne sommes pas les gardiens d'une tradition séculaire qu'il faudrait absolument suivre sous peine d'être maudit par un Dieu sévère, irascible, un Dieu qui se complète à la redondance, toujours les mêmes choses, un type de relation hiératique, difficile, dure, avec une grande tauge là comme ça, et puis un bâton prêt à te frapper. Mais l'église, c'est un lieu de communion, c'est pas un truc programmé, c'est un lieu où Dieu est chez lui et il fait ce qu'il veut chez lui. Après tout, c'est nous qui le servons, c'est pas lui qui nous sert. Dieu est immuable dans sa bonté, mais il n'est pas immuable dans la conception de l'église et dans la manière d'agir. Vous imaginez s'il nous parlait toujours la même chose? Vous imaginez si Justine venait me voir, ma petite fille, elle me dit « Bonjour mon papa, veux-tu me donner une tranche de jambon s'il te plaît? Amen. » Et moi je lui dirais « Avec ma bénédiction. » Alors bien sûr, on peut en avoir, c'est peut-être utile. On peut prêcher dans tout le monde. Il y a des moments où il faut de la liturgie quand on fait... Il y a certaines cérémonies où moi j'aime être très liturgique parce qu'il y a une certaine gravité, il y a un respect. On va pas commencer à faire une campagne d'évangélisation dans un enterrement. Un jour j'ai entendu des pasteurs. Il y a des pasteurs qui utilisent les enterrements pour prêcher l'évangile et essayer presque de faire des convertis. J'ai envie de leur mettre une veine de l'oreille. Pas sur eux, mais sur la bêtise qui règne au-dessus. Non, arrêtez s'il vous plaît. Quand il y a quelqu'un qui est dans le deuil, on ne va pas s'amuser à faire... Là, on doit être liturgique. Mais quand on fait le culte, on n'est pas là pour répéter les mêmes litanies à Dieu. Ça te dirait que ta fille ou ton fils te dise des litanies en permanence? Elles t'écrivent toujours les mêmes lettres? Mon cher papa qui est sur son fauteuil, que ton nom soit sanctifié. N'oublie pas tes belles chaussettes avant de mettre tes... Dieu est un Père merveilleux qui a créé l'homme pour développer une relation filiale, une vérité, une profondeur personnelle, authentique, pour partager avec lui ses richesses, pour un dialogue sincère, une quête profonde, réelle, par Jésus-Christ. Et Dieu veut bénir chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas devenus chrétiens seulement pour être chrétiens. Parfois, on est tellement chrétien qu'on devient chrétien. Mais Dieu a besoin de nous. Dis-le à ton frère qui est à tes côtés ou ta soeur. Dis-lui, Dieu a besoin de toi. Bon sang, quand est-ce que tu vas comprendre ça? Dis-lui. Le plus grand drame, c'est quand, dans le jardin d'Éden, ses enfants ont commencé à se cacher parce qu'ils ont mis le cerveau, au lieu de le mettre là, ils l'ont mis... Il y a des fois, on pense mal. Hein. Les deux lobes du cerveau ne sont pas les mêmes. J'ai rien dit. Hein. Vous interprétez. Alors le culte devrait avoir pour objectif de lui apporter notre adoration. Moi ce matin, j'ai eu l'impression d'avoir rendu un culte à Dieu. Amen. À un moment donné, je pensais que c'était arrêté. En plus, on était en train de graver un CD, un DVD. Vous avez déjà vu ça, vous? Je suis sûr que si on envoie ça à la boîte de production, ils vont dire, mais qu'est-ce, c'était prévu ce qu'ils ont fait? Parce que normalement, quand on fait un CD, un DVD, tout est prévu à la seconde près. Ma pauvre petite femme, elle est où, Maria? Ah, elle n'est pas là. Je ne sais pas où elle est. Elle se dit, ah, mais c'était pas prévu tout à fait comme ça. Mais... Et alors? Vous avez eu envie de nouveau, alléluia, alléluia, comme des Français passionnés, là, hein? Eh bien, ça y est, on est reparti, on a loué le Seigneur. Est-ce que c'était grave? Est-ce que Dieu va nous frapper maintenant quand, est-ce que vous allez avoir un accident de la route en rentrant de la maison? Est-ce que Dieu serait ce Dieu-là qu'on nous a décrit tellement? Ou est-ce qu'il veut qu'on le connaisse en esprit, en vérité? Est-ce que l'esprit et la vérité, c'est l'esprit d'adoration et l'esprit de respect pour son Église? Et donc, Dieu, pour le connaître, il faut d'abord la piété individuelle. Parce qu'il y a deux formes de piété. La piété individuelle, qui est le culte personnel, mais il y a aussi la piété publique, qui est l'exercice du culte en église, la piété communautaire. Et c'est cette connaissance intime de Dieu qui instaure une relation bilatérale entre Dieu et entre l'homme. Si tu n'es pas en communion, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Et cette communion est la recherche de Dieu, alors que le rite, lui, est l'effort de l'homme pour essayer de plaire à Dieu. Mais il n'y parvient jamais. Il ne saurait y parvenir, car un rituel ne peut satisfaire Dieu. Alors il a l'impression de le prier toujours en sens unique, parce que Dieu n'est pas là. Si ma femme me parlait, elle me dit « mon amour ». Un monologue, ça ne va pas si elle me dit toujours la même chose, elle me fait toujours la même nourriture. Ça ne va pas le faire. Dieu veut que nous lui offrions. Moi, j'ai appris à mourir à l'esprit de radinerie, la pingrerie française, pour devenir généreux avec Dieu, parce que moi je reçois beaucoup et je ne vais pas lui donner beaucoup. Et quand j'ai compris ce que disait le psalmiste, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien, dans 2 Samuel 24:24, eh bien ça m'a changé la vie. Et du coup, j'ai une autre mentalité. Et pour moi, les moyens ne sont rien que des moyens. L'argent n'est pas ma recherche. J'en ai besoin. On ne peut pas faire tout agir pour Dieu si on n'en a pas, mais ce n'est pas ma recherche, je m'en fous. Maintenant, au plus il m'en donne, au plus je l'utiliserai pour lui. Puis s'il m'en donne un petit peu, quelques miettes, ben, je suis content. Et puis en étant comme ça, je suis détaché. En étant détaché, je suis plutôt en relation avec Dieu. Et dans l'Exode, eh bien, on voit qu'il y a une démonstration, il existe une démonstration dans le livre de l'Exode, de la manière, quand on lit l'Exode, j'aimerais vous introduire au livre de l'Exode, on peut aussi y trouver une image du parcours du chrétien, de l'âme humaine, et du parcours qu'emprunte le Seigneur pour venir à la rencontre de l'homme, pour venir à ta rencontre. Et ce pèlerinage est l'image prophétique globale de l'œuvre que Dieu veut faire au travers de l'Église et au travers de ta relation personnelle avec lui dans ta vie. C'est une extension et c'est l'exercice du culte. Au tout début, on le voit dans Exode, le Seigneur veut faire sortir son peuple qui est dans l'esclavage de Pharaon. Il veut le faire sortir de l'Égypte, qui est un symbole de la vie du monde, de la tyrannie du péché. Parce que le péché n'est pas le plan de Dieu pour le chrétien, ni pour l'homme en général. pardon. Et Dieu veut l'amener dans son Canaan. Dieu a un Canaan pour toi, mon bien-aimé. Il y a une terre promise pour toi. L'accomplissement de la bénédiction en ta faveur. Le lieu de la richesse, de la grâce. Je dis toujours l'idylle intérieure. L'idylle du faire et de l'être. La réconciliation, pas seulement de l'utopie, mais également du pragmatisme, de la foi en action. Et comme disait autrement, plus simplement peut-être l'apôtre Jacques, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est ça l'idylle du chrétien, c'est de savoir réunir la richesse de la profondeur intrinsèque avec la réalité pragmatique de l'action de tous les jours, en un mot, l'exercice de la foi. Sinon, le sens chrétien n'existe pas, si ce n'est pour avoir qu'une théorie, une théologie, une philosophie. Alors Dieu, pour que nous puissions sortir de notre Égypte natale, de notre esclavage natal, il nous envoie la nuée. Dites avec moi, la nuée. La nuée, le jour pour nous guider, et le feu, le soir, pour nous protéger des prédateurs. C'est un symbole prophétique qui nous montre comment on peut faire pour sortir d'un désert intérieur et même d'un désert spirituel. Et comment, mes frères les pasteurs, l'Église du Christ doit sortir de son désert spirituel pour passer du rituel à la véritable présence de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est le salut de quiconque croit. » Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais t'as pas peur de ta réputation ? » Quelle réputation ? Moi j'ai plutôt peur de la réputation du Christ. Si je devais courir après une réputation, je serais mal barré. Mais l'homme ne peut pas parvenir facilement à lui-même, à devenir un homme bon, une femme vraiment super selon Dieu, s'il ne se défait pas de la puissance du péché qui est symbolisé par Pharaon. Pharaon qui veut en vous construire la pyramide du mal, le tombeau de la bienfaisance, dans laquelle finit par périr tout esclave accablé. Parce que pour un peu d'oignon d'Égypte, pour un peu de viande qu'il cuisinera pour vous, qui représente le plaisir mesquin, la fourberie du péché, ce monarque infâme vous prodigue ces quelques plaisirs passagers. Mais en échange, l'homme doit lui livrer son existence, son temps, son corps, son avenir, toute sa vie durant. C'est ainsi que les prostituées que vous interrogez, eh bien, elles vont vous dire que pour un peu d'argent, un peu de plaisir, elles sont devenues esclaves et elles n'osent même plus regarder dans la glace tellement elles souffrent de l'image intérieure. Et moi, je souffre pour elles et je voudrais qu'on les sauve, qu'on les aide et qu'on leur dise qu'elles ont plus de valeur que d'être la serpillière de la méchanceté des gens qui ne veulent s'en servir que comme des exutoires. Dieu a un Canaan pour ces femmes, Dieu a un Canaan pour ces hommes qui souffrent. Il y a quelque chose de nouveau. Mais il faut combattre ce pharaon qui vient avec toute son armée. Alors c'est pour ça qu'on passe déjà au chapitre 12 de l'Exode, où on voit que Dieu appelle à célébrer son peuple à Pâques, qui était un symbole prophétique du sacrifice qu'il fallait de Dieu pour nous, c'est-à-dire de lui qui vient nous défendre, pour que enfin Pharaon nous lâche, parce que même si tu lui envoies toutes les plaies du monde, tu lui envoies toutes les grenouilles du monde, tu lui envoies tout, celui qui est dans le monde ne peut pas être convaincu de la puissance de Dieu s'il n'a pas été confronté à la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi Christ devient notre Pâque. Et quand on devient chrétien, nous sommes au bénéfice de ce sang qui a été cloué, qui a été planté sur la croix, le linteau de la porte qui était toujours fait en bois dans les maisons de l'époque, qui était un symbole de la croix. Il faut passer par la croix pour être sauvé. Alors l'ange de la mort vient, le pharaon vient, mais il ne te touche pas parce que Dieu est ta Pâque et Christ est notre Pâque. Alléluia! Et beaucoup de gens s'arrêtent au chapitre 12 de l'Exode. Ils pensent qu'une fois qu'ils sont chrétiens, une fois qu'ils sont arrivés dans l'église, ils sont baptisés, Christ est leur Pâque, ils ont gagné le salut, c'est bon, ça suffit. Mais Dieu veut autre chose parce que lui, Pharaon, il s'en fout que tu sois passé par la croix et par la Pâque. Il arrive avec ses chars derrière. Et le peuple, selon les indications de Moïse, devait appliquer ce sang sur les linteaux, qui représentait le sang du juste d'un agneau immolé qui n'avait rien fait. Et la Bible nous précise qu'il devait le faire avec une branche d'hysope. Et la réalité théologique de la branche d'hysope, c'est le symbole de la foi, de l'acte volontaire. En un mot, s'il n'y a pas de libre arbitre et de volontariat dans la démarche chrétienne, comme disait le pasteur Anacondia hier, tu seras un croyant, mais tu ne seras jamais passé du statut de croyant à celui de communiant avec Dieu. Et pourtant, c'est ça l'unique volonté de Dieu. Et cet acte de mettre le sang comme ça sur les linteaux préfigurait vraiment l'application des mérites, des œuvres, de la réalité de l'œuvre du Christ dans notre âme, dans nos attitudes quotidiennes, notre maison, notre intimité. C'est pourquoi il fallait le mettre sur les linteaux, parce que c'est par l'entrée de nos pensées, de notre âme, que nous devons changer, que nous devons recevoir le bénéfice de ce que dit la Bible, afin de pouvoir être ressuscités en Christ et de changer. Et c'est pourquoi Dieu veut repousser la mort. L'ange de la mort qui frappe, la malédiction, qui frappe notre héritage. Cet héritage dans l'Exode qui est symbolisé par le fait du premier-né. Parce que le Fils représente, dans la réalité vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, le Christ représente, le premier-né représente la filiation, l'héritage qui vient. Or la Bible dit que Dieu veut te bénir de génération en génération, la malédiction est brisée. Et c'est pourquoi nous, quand on prie, parfois on prend autorité et on brise directement la malédiction. Je n'ai pas peur de le faire. Parce que Dieu veut un héritage de bonheur, un avenir que tu ne regretteras pas. Alléluia! Il veut aller jusque dans l'intimité, il veut passer le linteau de la porte, il ne veut pas rester qu'une notion philosophique rituelle. Mais la Bible dit aussi qu'il fallait le faire d'un coup. Il fallait le faire volontairement. Et puis alors plus tard, un peu plus tard dans l'Exode, Dieu veut apprendre au peuple de se nourrir d'une autre nourriture. Et ça, ils n'ont pas du tout aimé parce qu'ils aimaient bien les oignons d'Égypte. Et comme je vous l'ai dit, pour un peu d'oignons d'Égypte, pour un peu de plaisir, ils étaient prêts à faire n'importe quoi, à livrer leur vie et leur corps au pharaon en esclavage des heures durant, des vies durant. Mais le Seigneur leur a demandé ensuite de manger la Pâque d'un coup. Il devait prendre ce gâteau sec et il devait le manger d'un coup. Il n'avait pas le droit de s'arrêter ou de le garder pour plus tard. Cela, ça symbolisait aussi la conversion, qu'on ne repousse pas au lendemain. Et dans cette pâte, il y avait des herbes amères. Et c'était un symbole qu'il fallait toujours se souvenir de l'amertume de l'esclavage. Parce que quand le temps passe, on commence à dire « Oui, mais c'était mieux avant quand j'étais dans le monde. » Quand on donne à Dieu, on dit « Ah, avant je donnais pas, je pouvais m'acheter plus de trucs. » Avec le temps, on commence à changer, mais non, il ne faut pas se tromper. Et ensuite, le projet de Dieu ne s'arrête pas là, parce que pour aller au Canaan, il fallait aussi traverser un grand obstacle qui s'appelait la mer Rouge. Et là, on est déjà au chapitre 14 où Moïse va conduire son peuple vers cette traversée. C'est aussi le symbole prophétique des serviteurs de Dieu qui, exerçant le culte, vont amener les chrétiens à plus d'onction, plus de feu et plus de gloire. Nous ne sommes pas des fonctionnaires du dimanche matin, mais nous devons être des gens proches de Dieu qui vous montreront et qui vous ouvriront le chemin de la mer Rouge. Et c'est pourquoi les pasteurs devraient être d'abord des exemples et ne devraient pas avoir peur de conduire un culte. Mais eux-mêmes sont-ils dans le culte? Cette traversée, c'est de la mer Rouge, c'est l'image prophétique des impossibilités qu'on ne peut jamais vaincre, mais que par la foi, par le succès de la confiance en Dieu, eh bien, et par la persévérance, on peut y arriver. Alléluia! Et ça, tu peux faire ce que tu veux, ta vie chrétienne aura besoin de persévérance, sinon ça n'ira pas. Et alors Dieu te fait passer cette mer rouge qui est la mer des vanités, la mer des tentations, la mer du retour en arrière qui t'amène. Et juste après au chapitre 15, alors que la victoire est là, il se passe quelque chose d'incroyable où on voit dans Exode au chapitre 15 l'introduction de la notion d'adoration. Moïse, le grand serviteur de Dieu, sa famille qui est là avec son frère Aaron et sa sœur Myriam vont commencer à composer des chants et des cantiques. Ils vont prendre les tambours qui étaient les batteries de l'époque et ils vont commencer à faire du boucan et ils vont célébrer le Seigneur de tout leur cœur avec des danses et avec des joies et ils vont écrire l'un des plus beaux cantiques qui a été écrit depuis tous les temps. Alléluia! Et là, Dieu est en train de donner l'image prophétique qu'une fois que tu es dans l'église, une fois que tu es dans le peuple, tu dois apprendre à adorer. Alléluia! Parce que si tu n'adores pas, tu ne reçois pas la substance du ciel. Or, l'adoration n'est pas un cantique. Numéro 227. On s'arrête. Numéro 315. Na na na. Na na. Moi j'adore ces chants-là, je les chante tous les jours. Je les chante souvent à l'église et mon église ne les connaît jamais. Alors je peux pas vous dire que je les connais pas, je les aime. Mais quand même. Alors le chrétien après passe par des eaux parfois amères. On est déjà dans un autre, dans, à la fin du chapitre 15, où il passe dans les herbes amères de Mara, qui signifie en hébreu l'amertume. Et ça c'est le symbole aussi des... de l'expérience, de la souffrance qui dégoûte chaque chrétien, qui dégoûte l'être humain et qui pourtant est nécessaire. Car nous passerons tous par la souffrance à certains moments donnés. Il a fallu que Moïse plante son bâton dans cette eau qui était encore une fois le symbole que seule la croix de Dieu te libère de tes souffrances. Alors elles sont devenues douces. Alors même la souffrance qui était une horreur est devenue le symbole, la possibilité, l'excuse du miracle. Alléluia! Et pour Dieu, même ta souffrance, même ta maladie peut devenir l'excuse de la manifestation de sa gloire. Alléluia! Combien de gens ont dû passer par ces eaux amères de Mériba, de la souffrance parfois, pour pouvoir enfin se poser les questions essentielles. Tant que tout allait bien, tant qu'ils avaient les nanas autour d'eux, les voitures rouges autour d'eux, l'argent qui était là, ils pensaient pas à cela. Mais lorsqu'ils sont devenus un peu en souffrance, alors ils ont commencé à dire, mais il y a peut-être quelque chose de plus grand. Et le seul moyen pour que ta vie soit douce, pour que ta vie soit bonne, c'est que tu plantes la croix du Christ dans l'expérience de tes souffrances. Et c'est ça que ce que l'Église te prodigue. Parce qu'un jour, tu es en souffrance, tu viens et le prédicateur prêche sur la consolation. Alléluia! Et ça va mieux. Alléluia! Voilà le sens de l'évangile. Puis au chapitre 16, le peuple, là il va apprendre un autre chemin pour s'approcher de Dieu. Vous allez dire, oh la vache, c'est compliqué de s'approcher de Dieu. Ouais, mais ça rapporte beaucoup, hein. Parce qu'il y en a qui donnent toute leur vie pour s'approcher des choses vaines de ce monde et qui finalement parfois finissent ruinés. Certains arrivent à Star Academy, mais pas tout le monde. L'avantage que nous on a, c'est que si on s'approche de Dieu, on s'approche de la bénédiction. Et on sait que Dieu est avec nous et qu'il nous protège et qu'il nous bénira. Moi j'ai commencé dans une roulotte. Mes voisines étaient des vaches. Je vous promets, j'avais rien, j'étais fauché pire que les blés. Mais le Seigneur est fidèle. Alors il faut avancer dans cette vie chrétienne. Et au chapitre 16, ben là, ils vont avoir une autre expérience que certainement vous êtes en train d'expérimenter aussi. C'est que Dieu va leur donner un autre menu à manger. Alors nous, les Français, on n'aime pas ça. Il nous faut notre camembert quand même, hein, à la fin du repas. Et là, Dieu envoie de la manne. Pourtant, c'était très bon au début. C'était content parce qu'ils avaient la dalle. Hein. Comme vous, là, ça commence à être l'heure. Vous regardez vos montres, là. Et Dieu leur donne l'expérience, une expérience merveilleuse, c'est qu'il leur envoie une autre nourriture. Et ça, c'était le symbole que si le chrétien se nourrit toujours des mêmes mets d'avant, bien il ne peut pas changer, il a besoin d'apprendre à se nourrir d'une nourriture céleste, d'une nourriture de bonté. C'est-à-dire que peut-être dans le monde, on t'a appris à te défendre comme ça, et puis Dieu t'apprend l'amour. Peut-être on t'a dit la méfiance et Dieu t'apprend la confiance. Peut-être tu as appris à faire gaffe et à te dire, oulala, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire, etc. Et puis Dieu te dit, laisse faire, je serai ton défenseur. Je suis soit dans les bonnes vertus, parce que les vertus à long terme sont tellement meilleures. Elles ont un goût meilleur, comme cette manne qui a un goût de miel. Et le miel, c'est le symbole de tout ce qui est doux, agréable et bon, comme l'amour qu'on se prodigue les uns aux autres en ce moment est un miel bienfaisant pour notre âme, n'est-ce pas ? Jésus t'aime, chère Église. Jésus t'aime, bien-aimé, toi qui es là. Mais il faut que tu manges de cette manne du ciel qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Parce que si tu ne manges pas cela, lorsque tu vas passer au chapitre 17, dans la vallée où Amalek, le diable, va venir devant toi, parce que tu auras des combats dans ta vie. Mais comment tu vas résister si tu n'as pas la force ? Et si tu es seul, mets-toi tout seul devant une armée et on va voir si tu feras le fier comme Braveheart. Tu peux essayer de faire, comment il s'appelle le Braveheart, hein, c'est Mel Gibson. Tu peux faire le Mel Gibson, mais moi j'ai pu essayer, mais je n'ai ni les mêmes guiboles, ni les mêmes muscles. Et ni le même kilt comme il fait dans le film. Parce que dans le film il fait ça. Hein. Alors peut-être que lui il peut montrer son postérieur à ses ennemis, mais va faire ça au diable et puis tu verras bien. Il n'y a qu'une chose qui le fait fuir, c'est la parole de Dieu, c'est pas ton postérieur, hein. Alléluia. Alors les chrétiens, vous devez être nourris par cette parole de Dieu, parce que c'est ça aussi qui vous donne la force d'apprendre à combattre vous-même Amalek. Parce que si vous attendez que ce soit toujours Moïse qui le fasse, vous vous trompez. Dieu, dans sa quête individuelle avec toi, veut que tu apprennes à te défendre contre la puissance du mal. C'est pourquoi tu dois passer dans ce chapitre 17. Parce que tu vas vaincre les Amalécites. L'application de la foi fait que Dieu purifie l'âme et nous donne une force nouvelle pour que tu arrives au chapitre 19 et 20. Ou alors, le Seigneur te révèle une nouvelle chose. C'est la loi de Dieu. Et c'est là où il te donne les commandements, les conseils merveilleux du Seigneur. Parce que ces commandements, qui en fait sont des conseils de Dieu, sont une injection dans ton sang, c'est-à-dire dans ton âme, c'est-à-dire dans ce qui fait ta personne même, n'est-ce pas, du principe fondateur de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois immunisé contre la désespérance, contre la souffrance, contre le péché, pour que ce virus du mal ne t'atteigne pas.
Digital Gospel Journal.
Mise à l'écoute, vous venez d'écouter le pasteur Freddy de Coster dans un message qu'il a prêché dans la grande convention annuelle Pentecôte 2007. Si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant la prochaine convention Pentecôte 2008, vous pouvez contacter l'association Ancre à cette adresse email info@pentecote2008.com. info@pentecote2008.com ou bien les joindre aussi par téléphone au 02 31 14 40 88 02 31 14 40 88. Cette émission était une courtoisie de la société Sephora Musique de la Vie et du pasteur Alexandre Baron de l'église baptiste de Honfleur en Normandie. À vous tous, chers auditeurs, chères auditrices qui étaient branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, nous vous remercions de votre fidèle écoute et prions le Seigneur pour qu'il répande sur vous toutes sortes de bénédictions, tant spirituelles que matérielles. C'était pour vous servir, au micro et à la régie, votre ami en Jésus-Christ, Franck Douristil, qui vous dit une fois de plus, merci, que le Seigneur vous bénisse, et au revoir. C'était Ecclésiopod, sur la radio Ebenezer International.